ce 26 mars, c'est la fête de saint au nom plus ou moins connu, saint Basile qui était ermite et qui est mort au milieu du 10e siècle en Bithynie. Et puis, un Espagnol, Braulio de Saragosse, qui était évêque, qui est mort au milieu du 7e siècle, lui. Et plusieurs autres saints comme ça, comme saint Ludger. Il y a une sainte que j'aime beaucoup, qui est très peu connue. Donc c'est la fête aujourd'hui. Je voudrais vous en glisser quelques mots parce que c'est une laïque, une mère de famille. C'est assez étonnant. Elle s'appelle Margaret Quitrow. C-L-I-T-H-E-R-O-W. C'est une bouchère en plus de ça, simplement. Elle est morte martyre à 30 ans. Et elle fait partie des 40 martyrs anglais en 1586, là. Il y avait 7 laïcs, dont 3 femmes, 14 prêtres diocésains, 9 jésuites, 3 chartreux, 3 bénédictins, 2 franciscains, 1 augustin et 1 brigitain, un ordre disparu, qui ont été victimes de cette épouvantable persécution d'Élisabeth Ière, hein, la reine d'Angleterre. Et qui était extrêmement dur à l'égard des catholiques. Et chose extraordinaire, écoutez bien ça, c'est pour ça que je voudrais vous en parler. Paul VI les a canonisés le 25 octobre 1970, il y a donc 25 ans. En présence de qui? De nul autre que du fameux docteur Ramsay, qui était archevêque anglican de Canterbury, que j'ai eu la chance de rencontrer personnellement en 1963, 7 ans plus tôt, et qui était un homme absolument sympathique à l'Église catholique, qui aimait beaucoup le pape Paul VI, qui était très près dans son cœur de l'Église catholique de Rome. J'ai beaucoup aimé le docteur Ramsay. C'est le chef, enfin, de l'Église anglicane. Et il était là quand le pape Paul VI a canonisé ces gens-là, ces 30 martyrs, c'est-à-dire ces 40 martyrs, qui ont été tués par les anglicans. Comme quoi, le mouvement d'écuménisme et de compréhension mutuelle est extraordinaire. Cette femme de 30 ans avait 2 enfants. Elle a été écrasée le 26 mars 1586 par une lourde porte qu'on avait rendu très très lourde, 800 livres de grosses pierres, son corps broyé a été, c'était effrayant. Ça a pris un quart d'heure pour qu'elle meure, et savez-vous ce qu'elle soupirait sous cette porte alors qu'elle était écrasée? Mère de famille, de 2 enfants. Elle répétait sans cesse, Jésus, pitié. Jésus, pitié. Bien oui, pitié pour les anglicans, pitié pour les catholiques, pitié pour les chrétiens, pitié pour elle-même. C'est très beau. Faudrait qu'un jour je vous lise un peu plus sa vie. Très simple, c'était une convertie, hein, qui est passée de l'anglicanisme au catholicisme. Aujourd'hui, je veux surtout vous parler du père Eusèbe Henri Ménard, franciscain, un Québécois, qui est mort en 1987. Quel homme extraordinaire, hein? Il faut lire certaines choses qu'il a écrites, des brochures plutôt, mais quelle richesse dans ces brochures. Vous savez, souvent on dit, oh, les brochures. Ben, je vous lis le titre simplement de l'une d'entre elles, La Révolution de l'amour. Pour la faire, c'est en sous-titre, ça, pour la faire, des laïcs engagés sont indispensables. Et en bas de la page titre, c'est écrit « Prêtres et laïcs unis pour humaniser et évangéliser le monde ». Sa spiritualité est établie sur l'amour, sur la bonté de Dieu. C'est très, très, très beau, sa spiritualité. Quel homme magnifique que le père Eusèbe, c'est son nom de religion chez les franciscains, ça. De son vrai nom, Henri Ménard. Henri Ménard est né dans une famille très, très simple, hein. Son père, Charles Ménard, est cordonnier. Sa mère, pour aider son mari, ouvre un petit magasin de rien du tout. Ils vivent dans la Beauce, si je me souviens bien, à East Broughton. Et elle ouvre un magasin de chaussures. Savez-vous combien ils ont d'enfants? 11 enfants, il est le sixième. Sa mère s'appelle Marie-Anna Labbé. Alors le père Ménard, sixième enfant, avait 8 frères et 2 sœurs. Ils étaient donc 9 garçons. Je plains les 2 sœurs. Alors dans ce foyer chrétien, heureusement chrétien, on est profondément croyant, comme on l'est souvent à cette époque. On se fie aussi à la providence, à Dieu. On met des enfants au monde et on sait que Dieu y pourvoira. Vous direz, oh, c'est facile à dire. Mais regardez, les enfants tous, bien que fils de cordonnier, d'un petit cordonnier de village, se sont instruits, ont fait des études. Il faut lire d'ailleurs le beau texte lors des funérailles du père Ménard, le texte de sa sœur lors des funérailles. C'est très, 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 très émouvant. Hein? Et elle raconte que Henri a manifesté dès son enfance des signes de piété, dit-elle, qui laissaient présager sa vocation future. Et à ce sujet, mes frères m'ont relaté un petit fait que j'aimerais vous rapporter. Je le trouve gentil, que ça rappelle de vieux souvenirs. Les enfants ne font plus ça aujourd'hui. Alors qu'il n'avait que 10 ou 12 ans, les jours de pluie, il invitait Paul-Émile Benoît et ses petites sœurs à monter au grenier pour jouer à la messe. Il découpait une chasuble dans du papier journal et des hosties dans une boîte vide de chaussures. Et tout le monde étant placé, il nous parlait. Il est vrai qu'au cours de ses études au séminaire de Saint-Victor-de-Beauce, durant les vacances d'été, ma mère le chargeait souvent de s'occuper des petits derniers. Alors déjà, il avait le souci d'aider les autres et de les éduquer. Alors, leur foyer était, au Ménard, une espèce de petite église domestique. On vante toujours les foyers juifs comme étant des espèces de synagogues domestiques, hein, où les familles juives prient beaucoup. Mais dans nos foyers catholiques, c'était comme ça autrefois, souvent. Hein. On y priait beaucoup. On n'y prie plus. Les enfants ont trouvé là une ambiance de paix, de joie. C'est dans cette atmosphère, donc d'une vie vraiment chrétienne, que ce jeune Henri Ménard, qui a été baptisé Joseph-Henri-Pierre Ménard, se prépare à devenir prêtre. Alors, Après ses années de philosophie au Collège Saint-Victor-de-Beauce, il entre au séminaire des missions étrangères à Pont-Vio pour une année de théologie, mais il bifurque ensuite chez les franciscains pour compléter sa théologie. Puis il est ordonné prêtre à Québec au monastère des franciscains en septembre 1941. Alors le père Ménard étudie ensuite pendant 2 ans les sciences sociales, et ça ouvre son cœur sur des dimensions sociales profondes qui vont animer toute sa vie. Il étudie les sciences sociales à l'Université de Montréal. De 45 à 46, le père Ménard, qui est un excellent prédicateur, c'est un prédicateur de feu, c'est un prédicateur vraiment exceptionnel. Lors de ses funérailles, d'ailleurs, le frère Henri Étier, franciscain, ministre provincial, je l'appelle frère parce que on pourrait dire père autrefois, mais comme on dit le père Ménard, j'aimerais mieux qu'on dise au fond le frère Ménard, hein, ce sont des franciscains, car le frère Ménard est resté franciscain jusqu'à la fin de ses jours, même s'il a fondé cette immense congrégation des pères des saints apôtres, des missionnaires des saints apôtres. Hein. Et là, le frère Étier, lors des funérailles, dit « J'ai connu Eusèbe comme un homme fasciné par le mystère de Dieu ». Révélé en Jésus, homme de prière, il nourrissait sa foi dans la contemplation du Dieu vivant et dans l'écoute de sa parole. Si sa foi savait s'exprimer avec tant de chaleur et rejoindre les cœurs, c'est qu'il parlait comme quelqu'un qui est pris par Dieu. Si sa foi, dit-il, savait s'exprimer avec tant de chaleur et rejoindre les cœurs, c'est qu'il parlait comme quelqu'un qui est pris par Dieu. Il dit plus loin, fasciné par Dieu, ce Ménard a été aussi un passionné du royaume de Dieu. royaume de Dieu à accueillir et à bâtir avec le Christ. Il ajoute, c'est là que nous retrouvons l'origine de son ardeur apostolique, des audaces de sa foi, de sa créativité, de ses efforts pour répondre par des voies nouvelles à des besoins neufs, oui, des besoins neufs du monde et de l'Église, et vous verrez ce qu'il va faire. Au cours des retraites qu'il prêchait, particulièrement à Châteauguay, eh bien, puis il prêche ailleurs aussi, à des prêtres de différents diocèses, à des religieux, des religieuses, des étudiants de divers collèges classiques et d'institutions de toutes sortes. Dans tous les cas, il prêche de 45 à 46 à la maison du Christ-Roi à Châteauguay-Bassin. Malheureusement, je crois que les franciscains viennent d'abandonner cette maison il n'y a pas longtemps. J'y suis déjà allé prêcher moi-même. Et, ben, je suis laïque, hein. Il y a des gens qui pensent que je suis prêtre, là. Je tiens à le dire, je suis un simple et saint, très simple laïque. Je n'ai rien d'un prêtre, malheureusement, pour moi. Et, c'était une maison dirigée par les franciscains. Alors là, au cours des retraites qu'il donnait, ben, le père Ménard se rend compte de quelque chose qui existe là parmi tous ces jeunes étudiants. Il y a des sources de vocation possibles pour le sacerdoce. Car lui, il veut vraiment sauver l'Église en grande partie par le sacerdoce, mais aussi par les laïcs, les deux. Alors, parmi les retraitants qui ne sont pas encore définitivement engagés pour la vie, là, qui n'ont pas marié, qui sont pas vraiment décidés, il en oriente un certain nombre vers les études. Au besoin, il fait payer leurs études par des gens qui sont en moyen. Il espère vraiment qu'ils vont choisir le sacerdoce. Il ne les pousse pas outre mesure, il ne faut pas croire ça. Mais Dieu semble bien appeler cet homme à fonder ce qu'on appelle l'œuvre des saints apôtres. Hein? D'ailleurs, plus tard, il a révélé que le Seigneur lui avait montré cette œuvre au cours de la célébration de la messe, dans une vision intérieure, qui l'a profondément motivé. Et les saints apôtres, eh bien, c'est quoi? Ce sera une organisation de prêtres, souvent qui trouvent une vocation tardive. Aujourd'hui, une grande partie des vocations sont tardives. Il suffit d'aller au grand séminaire, les séminaristes ont 35, 40, 50 ans souvent. Alors, le 20 septembre 1946, ils fondent l'école apostolique Saint-Pascal-Bellon à Montréal-Nord. Elle ouvre ses portes aux 40 premiers étudiants. Ce sont des séminaristes adultes. Et pour répondre aux nombreuses demandes d'admission, il décide d'établir au Québec 4 séminaires, un 5e aux États-Unis aussi. Tout cela en fort peu de temps finalement, une 15aine d'années. C'est un énorme travail. Il travaille sans relâche d'ailleurs. Il veut donner à l'Église de nombreux prêtres surtout, de saints prêtres, dont elle a si grand besoin. Or les franciscains ne peuvent évidemment pas assumer la direction de cette école apostolique. Alors il faut songer à la fondation d'une nouvelle famille religieuse, les Pères des Saints Apôtres. Dès 1950, il y a les premiers candidats qui sont réunis. Ce sont de futurs prêtres et frères pour fonder la Société des Saints Apôtres, car il faut dire qu'il y a aussi des frères des Saints Apôtres. Cependant, avec le temps, de graves et grands changements sociaux dans l'Église du Québec, changements religieux aussi vont surgir, et les vocations sacerdotales et religieuses diminuent d'une façon alarmante. Alors là, il y a des petits séminaires qui ferment leurs portes. Mais quant au séminaire Saint-Jean-Vianney de Montréal, il devient un collège externat au service de la jeunesse de la région. Là, le père Eusèbe Ménard, donc appelé en 1962 par les événements vraiment providentiels, ce sont des difficultés qu'il a eues avec les autorités diocésaines. Je passe là-dessus, car c'est toujours triste dans l'histoire de l'Église, les fondateurs, qui, inévitablement, le cœur brûlant, voient des choses que d'autres, malheureusement, ne semblent pas voir. Mais c'est particulièrement pénible. Hein? Alors, il doit continuer ailleurs l'œuvre qu'il a lancée au Canada et aux États-Unis. Il est fortement encouragé et soutenu par ses plus supérieurs franciscains, qui comprennent que les œuvres de Dieu sont toujours, ou à tout le moins, très souvent dans l'histoire de l'Église, visitées puis fortifiées en même temps par le mystère de la croix, hein, qui est un mystère profond et incompréhensible. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Et s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Et c'est ce qui va arriver la même année, soit le 15 août 1962, donc signé le décret d'érection des missionnaires, cette fois-ci, missionnaires des saints apôtres, par Mgr Damase Laberge et le père Eusèbe Ménard, dans la préfecture apostolique de l'Amazone au Pérou, la préfecture apostolique Saint-Joseph au Pérou, oui, au Pérou. Et là, les fondations se succèdent en Amérique latine. À Bogota, en Colombie, s'établit le séminaire pour y recevoir des candidats. Ils ont, c'est incroyable la quantité de vocations sud-américaines, hein, d'origine souvent amérindienne. Alors, pour y recevoir donc les candidats, tant pour le clergé diocésain que pour le clergé religieux, et particulièrement pour devenir des missionnaires des saints apôtres. Alors, ils se trouvent à aider les évêques à se trouver des prêtres. Alors, des missionnaires des saints apôtres sont envoyés au Brésil, par du Québec, où ils dirigent plusieurs paroisses. Au Pérou, ils fondent la fraternité des sœurs missionnaires des saints apôtres, qui travaillent dans le domaine de l'éducation et de l'apostolat chez les adultes. Et les missionnaires des saints apôtres se retrouvent ensuite au diocèse de Los Teques, au Venezuela. Alors, ils prêtent leur concours pour le ministère à la cathédrale Saint-Philippe Neri, au Venezuela, et ailleurs aussi, dans ce pays. On trouve aussi des missionnaires des saints apôtres en Afrique. Je les ai vus moi-même au Cameroun en janvier 1971. C'est là que j'avais vu le merveilleux père des saints apôtres, le père que j'ai donc aimé, ce prêtre, Pierre-Julien Bouchard, qui était frère d'ailleurs d'un annonceur de Radio-Canada, Roger Bouchard, que j'aimais beaucoup, avec lequel aussi j'ai souvent travaillé. Mais Bouchard, famille de croyants solides, joyeux, doux, merveilleux, des gens merveilleux. Et alors donc au Cameroun, en Afrique, puis en Afrique centrale aussi, ils sont devenus missionnaires là. Ils ont dirigé là deux séminaires pour former des prêtres, l'un pour des vocations d'adultes, l'autre pour des vocations plus jeunes. Alors l'œuvre implantée aux États-Unis a donné à elle seule plus de 400 prêtres, près de 500 prêtres à l'Église américaine. C'est énorme, hein? Ces nombreux prêtres ont été formés au Holy Apostles Seminary, ou le séminaire des saints apôtres, si on veut, à Cromwell, au Connecticut. L'ensemble de l'œuvre des saints apôtres a donné jusqu'à aujourd'hui à l'Église près de 1000 prêtres. Ces prêtres se dévouent comme prêtres diocésains ou religieux dans plus de 30 diocèses et communautés religieuses, et cela aux quatre coins du monde. D'ailleurs, le père Ménard, vous savez, a été reçu par les papes Paul VI et Jean-Paul II. Ils lui ont dit tous deux à peu près ceci. Je trouve ça très, très important. Mettez-vous bien ça dans la tête. Voici les paroles des papes, ces deux grands papes. Mon père, en s'adressant au père Ménard, le problème capital et le plus urgent actuellement pour l'Église est celui du sacerdoce. Continuez vos efforts pour préparer de saints prêtres dont l'Église a un si grand besoin. Sans prêtre, où irons-nous? Alors, pour la réussite de ces nombreuses œuvres, il a fallu la collaboration intelligente, active, et persévérante aussi, de bien des laïcs, qui ont été très efficaces. Le père Ménard a su en attirer plusieurs. Hein. D'ailleurs, l'une de ses brochures les plus intéressantes demeure la révolution de l'amour. Alors, pour faire cette révolution de l'amour, comme il dit sur la couverture, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça prend des laïcs engagés, qui sont indispensables. Il dit en page 32, oui, c'est le père Ménard qui écrit ça, il y a un style merveilleux, hein, je vous assure, j'ai rarement lu au Québec des choses plus belles, et même en France. Oui, l'homme est sacré. Vous serez jugé non pas sur votre culte, sur votre attitude envers Dieu. J'en entends qui sont déjà scandalisés. Il dit bien, vous serez jugé non pas sur votre culte, bon, du moins qui va à la messe tous les jours, hein, sur votre attitude envers Dieu. Vous serez jugé sur votre attitude envers votre prochain. Alors, comment fait-il pour dire ça? Pourquoi dit-il ça? Ils disent, je trouve ça extraordinaire, « J'ai cherché mon âme, mais mon âme, je n'ai pu la voir. J'ai cherché mon Dieu, mais mon Dieu m'a échappé. J'ai cherché mon frère, et je les ai trouvés tous les trois. » C'est beau, hein? Et il nous invite à lire l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, les versets 21 à 23. Et c'est Jésus lui-même qui dit la même chose que le Père Ménard. Ou le Père Ménard dit la même chose que Jésus, devrait-je dire. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », pas même ceux qui prophétisent, oui, qui prophétisent, chassent les démons ou font des miracles. Nous ne serons pas jugés sur le religieux pur, n'est-ce pas? Dans Saint-Luc, on peut lire ceci aussi dans la parole de Jésus. Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que resté dehors, vous vous serez mis à frapper en disant « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous prendrez à dire « Mais nous avons mangé et bu sous tes yeux. » En d'autres termes, nous avons assisté à la messe chaque dimanche ou chaque jour et communié, peut-être fait des adorations nocturnes et des saluts. Et tu as enseigné sur nos places publiques. Nous avons entendu d'innombrables sermons et nous sommes venus aux retraites. Mais Jésus vous répondra, c'est dans Saint-Luc, chapitre 13, le verset 27, « Je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, fauteur d'iniquité. » Jésus ne va pas de main morte. Hein? Il n'y va pas de main morte, Jésus. Il nous rappelle que l'amour est essentiel. Sans l'amour, c'est dans Saint Paul, hein? Nous sommes des cymbales retentissantes. On aura beau assister à 10 messes par jour, on aura beau communier, rester des chapelets, des rosaires, 3 rosaires par jour. Si nous n'avons pas d'amour, à quoi ça rime? C'est pas des paroles comme ça qui vont m'empêcher d'aller à la messe tous les jours. C'est pour moi très précieux, la messe quotidienne. Très, très précieux. Mais j'essaie, à partir de ma messe, d'aimer un peu, c'est pas facile. D'aimer un tout petit peu, au moins. D'avoir un cœur conforme à celui de Jésus. Alors, dès le début de l'œuvre des saints apôtres, l'un des laïcs les plus remarquables qui l'a aidé, c'est M. Hector Durand, qui s'est mérité le titre de cofondateur de toute cette œuvre. Cet homme a consacré toute sa fortune à l'œuvre, mais pas seulement sa fortune, son temps pendant 25 ans, un travail assidu, acharné. Il a construit des séminaires au Canada tout spécialement. Il a évidemment été aidé et accompagné par un grand nombre d'autres laïcs, des hommes, des femmes au grand cœur. C'est que le Père Ménard, par son exemple, son amour ardent pour les âmes, savait les entraîner à sa suite, en les amenant à participer à ses œuvres, hein, et comme il leur disait, en vertu et par la grâce de votre baptême. Il le répétait souvent. Dans presque chaque pays où le Père Ménard travaille, des groupes de laïcs unis en des corporations civiles ont aidé et aident encore à l'administration des affaires temporelles, ce qui permet évidemment aux prêtres et aux religieux de mieux se livrer à tout leur travail d'apôtre, et à la prière, à la célébration des sacrements. C'est une œuvre extraordinaire que l'œuvre des pères des saints apôtres. Le Père Ménard écrivait « La charité de Dieu est la possibilité, la faculté que le chrétien a d'aimer comme Dieu et en Dieu. » On pourrait dire que le cœur du Christ a été comme greffé à notre cœur humain si limité. Ainsi, avec toute notre acceptation active, laissons le cœur du Christ continuer à aimer le Père en nous, à nous aimer nous-mêmes ainsi que le prochain dans l'Esprit Saint. Il cite l'Épître aux Romains, « Car tout est de lui et par lui et pour lui. » À lui soit la gloire éternellement. Amen. Le Père Ménard avait un sourire presque continuel malgré toutes ses épreuves. Et quel beau sourire! Un magnifique sourire de saint! Car il était toujours en action de grâce malgré toutes les difficultés, toutes les épreuves. Il écrivait d'ailleurs « Jésus-Christ est l'amour de Dieu pour chacun de nous. » Jésus-Christ est l'amour de l'homme pour le Père. Jésus-Christ est l'amour de l'homme pour chaque homme. Jésus-Christ est l'amour de chacun de nous pour soi-même. Il disait plus loin, la plus grande force sur la terre est l'amour. L'amour manifesté parfaitement et concrètement par le mystère du cœur du Christ, chemin, vérité et vie. Donc en ce 26 mars, c'est l'anniversaire, le 9e anniversaire du décès du Père Eusèbe Ménard, franciscain fondateur de cette œuvre immense des Pères des Saints Apôtres. Les Pères des Saints Apôtres et les missionnaires des Saints Apôtres se sont réunifiés récemment en une seule congrégation. Quand il est mort, on pouvait lire dans le journal « Franciscain, prêtre, missionnaire, prédicateur vigoureux et entraînant, homme d'une foi inébranlable, d'une espérance absolue et d'une charité débordante, il a donné naissance à une œuvre féconde d'humanisation et d'évangélisation. » Et c'est bien vrai. Et c'est d'ailleurs, cette année en 96, le 50e anniversaire de l'œuvre des Saints Apôtres. En effet, c'est en 1946 que le Père Ménard a fondé son premier séminaire pour vocation tardive dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le Père Ménard a certainement mérité le titre d'apôtre du sacerdoce et de l'Eucharistie. Son grand et immense amour pour Jésus et pour ses prêtres, c'est un amour surnaturel débordant et ne s'est jamais démenti. Il suffit de lire quelques extraits de son testament spirituel. Ça nous le révèle très clairement. Père, Fils et Saint-Esprit, soyez loués éternellement en tout et en tous. En union avec Marie, Mère de Jésus et Mère des hommes, en union avec tous les anges, les saints et toute la famille humaine, en union avec toute la création, il y a quelque chose d'un peu théardien, hein? Mais ça vient de Saint-Paul. Vous savez que dans les épîtres de Saint-Paul, on retrouve le résumé de la pensée de Teilhard de Chardin qui a été si discutée, dont je vous parlerai le mois prochain. Donc, en union avec toute la création, merci pour m'avoir appelé à devenir prêtre, pour rendre le plus grand des services. L'autre jour, mon petit-fils Pascal disait, grand-papa, j'ai décidé, je veux devenir prêtre. Et quelqu'un qui était là, il dit, tu y penses pas, voyons donc. Pourtant, c'est un catholique. Hein? C'est incroyable la réaction des catholiques aujourd'hui devant un enfant qui veut devenir prêtre. Et j'ai pas pu m'empêcher de couper la parole à cet ami qui, malgré lui, disait ce que tout le monde dit, ou à peu près. Et j'ai dit, Pascal, tu ne pouvais pas choisir rien de plus grand, de plus beau et de plus merveilleux. Eh oui. Merci pour m'avoir appelé à devenir prêtre, pour rendre le plus grand des services, a écrit le Père Ménard dans son testament, pour réaliser l'Eucharistie, mystère de foi, mystère d'espérance, mystère d'amour, sacrifice unique du Christ, rendu présent sur l'autel. Où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé, ici de Saint Paul. Amour immense de Dieu pour l'homme, amour immense de l'homme pour Dieu. Succès infaillible de toute la création, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Cette messe, Seigneur, que j'ai eu le privilège de célébrer chaque jour, et souvent, plusieurs fois par jour, en union avec Marie, mes frères, les hommes et tout ce qui est, je veux la vivre à chaque instant et pendant toute l'éternité, en laissant agir le Saint-Esprit en moi, pour qu'il y mette les dispositions d'obéissance amoureuse et d'abandon total de Jésus à son Père. Seigneur, avec insistance et comptant sur votre puissance, je vous demande, avant ma mort, et après ma mort, la grande faveur de passer ma vie à susciter de nombreuses et vraies vocations sacerdotales, et à soutenir mes confrères, les prêtres. Les prêtres, vos prêtres, comme je les ai aimés, écrit encore le père Ménard, comme je les aime. Je vais continuer à les aimer si possible, comme jamais ils n'ont été aimés. Je vais les aimer avec le cœur même de Jésus. Je suis convaincu que je les servirai plus après ma mort que je ne l'ai fait pendant ma vie sur la terre. Puissent-ils vivre leur sacerdoce en union avec celui de leurs frères baptisés, confiant à ceux-ci beaucoup de responsabilités, afin qu'eux-mêmes ils puissent se consacrer davantage à la prière et à la prédication. Mon Dieu, mon Père, avec et dans mon corps mortel, en Jésus et par Jésus, je veux réaliser le grand rêve de ma vie, vous obéir en tout, avec joie et avec amour, être présent avec votre message d'espérance à chacun de mes frères, les hommes, dans leur moindre nécessité, en particulier être présent à chacun qui souffre l'oppression, l'injustice, qui lutte pour être meilleur et pour que le monde soit plus beau et libre dans le Christ. Plus particulièrement présent à chacun des membres de l'œuvre des saints apôtres, ajoute le père Ménard, prêtres et frères, société des sœurs des saints apôtres, société des missionnaires des saints apôtres, prêtres et frères, aux laïcs affiliés à notre œuvre, collaborateurs indispensables, pour que tous et chacun soient fidèles au charisme, à la vocation et à la mission de l'œuvre des saints apôtres. Savez-vous que dans des bulletins qu'on nous envoie, j'en ai reçu un récemment, Mission, Action, la Obra, Wova, c'est l'œuvre en d'autres termes, l'œuvre des missionnaires des saints apôtres en Amérique du Sud. Mais il faut voir les photos, mettons, au village de la Ramada. Mais les pauvres maisons, pauvres, pauvres, pauvres maisons comme dans des déserts, où il manque d'eau, il manque de tout. Et là, ils ont des aides laïques, boulangères, ingénieurs, des gens qui travaillent à trouver de l'eau potable, des gens qui forment des prêtres, qui instruisent des enfants, qui travaillent parmi les plus pauvres, les plus délaissés, qui sont des Québécois, qui ont entraîné des gens d'Amérique du Sud à travailler avec eux, que c'est beau cette œuvre des Québécois. Comme nous avons raison d'être fiers d'être Québécois quand on voit toute cette générosité. Ma fierté ne va pas vers ceux qu'on voit à la télévision, qui nous parlent de leurs aventures sexuelles et de leurs niaiseries. C'est pas ça qui fait ma fierté d'être Québécois. C'est ceux dont on ne parle pas malheureusement sur nos ondes. Pourquoi ne parle-t-on pas de tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Le père Ménard désirait être présent en chaque malade, en celui qui est affamé, c'est ce qu'il dit dans son testament, en celui qui a soif, qui pleure, qui se désespère. On peut dire que le père Ménard a beaucoup aimé et aidé un grand nombre de pauvres et de désemparés, en qui il rencontrait qui? Il rencontrait là le Christ, le Seigneur, souffrant en eux. Je me souviens d'avoir vu comme ça à Strasbourg, dans une vitrine, après la messe du curé de la cathédrale que j'aimais beaucoup là-bas à Strasbourg, en France, qui était d'ailleurs un grand ami de Malraux, ce curé merveilleux. J'avais vu dans la vitrine un antiquaire, un crucifix, puis le Christ, sur ce crucifix d'ivoire, tournait sa tête vers son père et criait. J'y suis allé l'acheter le lendemain, car j'y voyais mon fils adoptif quand il criait son désespoir du fond de sa misère. Pas drôle ne pas avoir terminé sa deuxième année primaire dans une société où on demande d'avoir terminé son cégep. Père Ménard a beaucoup aimé ses petits, oui. Il voulait, à la manière de l'Évangile, que sa main gauche ignore ce que faisait sa main droite. Et sa confiance en Dieu, divine providence, comme on disait. C'était presque sans borne, car Dieu bénit toujours. Il récompense au centuple le bien qui est fait au plus petit des siens. L'œuvre du Hogar San Pedro en Amérique du Sud, que les saints apôtres ont fondé, reçoit des abandonnés, des malades, des enfants par centaines, des jeunes et des vieillards qui sont très, très pauvres et qui ne peuvent pas trouver l'aide dont ils ont besoin. Et cette œuvre protège près d'une centaine d'indigents. En plus de ça, déjà un bon nombre d'entre eux y ont recouvré la santé, aussi plusieurs y sont malheureusement décédés. L'œuvre est dirigée par un prêtre, assisté d'un comité de laïcs, des médecins, des infirmiers, des infirmières qui se dévouent sans compter pour soulager la souffrance de ces pauvres abandonnés. Mais heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dit l'Apocalypse au chapitre 14. Bienvenue à ma sœur la mort corporelle, simple épisode dans ma vie qui continue. Et dans l'esprit de Saint François, cette mort, unie à la vôtre, Jésus, doit être un acte d'amour parfait, un don total, un acquiescement complet et joyeux à la volonté du Père, suprême bien et parfait bonheur, car la mort, c'est quoi, hein? C'est tout simplement la naissance finale. Quand on sort du sein de notre mère, on crie, on a peur. Et le bonheur nous envahit dans les bras de notre mère, dans les bras de notre père, sous les caresses de nos frères et sœurs. Et on grandit, et c'est merveilleux que de jouer et de connaître et d'apprendre à croire et à reconnaître Dieu. Je plains les enfants auxquels on n'enseigne rien du monde invisible. On apprend le nom de Jésus, faire le signe de la croix, à désirer communier comme mon petit-fils qui criait dans la cathédrale, « J'en veux, je veux communier !» Il était trop petit. Ce désir que la grâce fait naître au cœur des enfants, c'est beau. Eh bien, la naissance à la mort, c'est une immense naissance, on en a peur. Mais qu'est-ce qu'on trouve? Les bras de Dieu notre Père, son cœur immense. Oh, je sais bien que Dieu n'a pas de cœur, je sais bien que Dieu n'a pas de bras, je sais bien que Dieu est un pur esprit. Je parle au sens figuré, je ne voudrais pas que des gens croient que je crois que Dieu a un corps. Nous catholiques, nous savons bien que Dieu est pur esprit. Mais nous lui prêtons ces images. C'est les seuls que nous avons. Nous sommes de pauvres êtres créés, êtres humains. Et nous parlons avec nos mots. Hein. Alors les dernières paroles du Père Eusèbe Ménard. Viens Seigneur Jésus. Jésus le seul grand, Jésus le seul maître. Jésus le seul saint. C'est dans son testament. Hein. Et c'est une soumission profonde qu'il avait. Les paroles recueillies par sœur Thérèse Viel, garde-malade attitrée, qui en prenait soin, c'est « Oui, je souffre beaucoup, mais comme le veut le Seigneur, et pour tout le temps qu'il voudra. » Le Seigneur veut pas, au fond, peut-être, qu'on souffre vraiment, mais au creux de notre souffrance, ce qu'il veut, c'est qu'on sache qu'il l'aime, qu'il nous aime. Il n'est qu'amour. Et que notre foi noie notre douleur, notre souffrance, dans ce grand cri d'amour qu'on adresse à Dieu. Et dans la réception du cri d'amour que Dieu nous adresse, c'est ce qui recouvre la souffrance. Le Père Ménard s'est endormi dans la paix du Seigneur, comme on dit. Et c'est très beau, cette formule. Tout doucement, oui, tout doucement, sans angoisse, il y a 9 ans, tout comme un enfant qui s'endort paisiblement dans les bras de son père. Il s'est endormi en toute confiance. C'est ainsi qu'il est mort, le 26 mars 1987, à l'infirmerie provinciale des Franciscains de Rosemont, à Montréal. Et ses funérailles ont été célébrées chez les pères Montfortin, qui ont un grand sanctuaire au métro Cadillac, le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. C'était célébré dans une grande ambiance de paix. Il y avait une foule nombreuse. C'était recueilli, c'était priant. La messe a été concélébrée par deux évêques, dont Mgr Chimiquel, et une centaine de prêtres. D'ailleurs, lors des funérailles, Mgr Chimiquel a dit des choses absolument superbes. Mgr André-Marie Chimiquel, qui connaît très bien la vie des saints, est évêque auxiliaire à Montréal. Il a été mon curé à la cathédrale pendant 25 ans. Je veux lui rendre hommage parce que ce sont de très belles paroles qu'il a prononcées il y a 9 ans à ce moment-là. Je les lis toutes. Fils de Saint François, prêtre de Jésus-Christ, missionnaire au pays lointain, prédicateur de la parole, fondateur de familles religieuses, autant de coups de pinceau pour peindre cette figure exceptionnelle qui tient de l'énigme. Ses funérailles furent un doux triomphe, déjà un monument vivant de sérénité, d'espérance et de paix, une grande victoire de la volonté de Dieu. Je le revois dans ses débuts, ferme, tenace, difficile à saisir, tant sa vision est profonde, large, ses perspectives universelles. Quand Mgr Chimiquel a dit « ferme et tenace », c'était le sentiment qu'on avait en présence du Père Ménard. Quand on le voyait, là, tout de suite, on sentait la fermeté, la ténacité, le courage. Il était extraordinaire, mais doux en même temps. Mgr Chimiquel ajoute « il a fallu le creuset de l'épreuve pour faire ressortir tout ce qu'il y avait de richesse spirituelle dans son cœur de feu, aux subites éruptions volcaniques. Sa ligne de crête a été persévérante, forte et brillante comme le diamant. Rien ne pouvait arrêter cet homme de Dieu. Il a catalysé d'innombrables forces vives chez les laïcs. Il a suscité d'immenses générosités. Il a été créateur d'un dynamisme contagieux. Que de fois il a électrisé ses auditeurs, nombreux, choisis et fervents. Ses dernières apparitions en public ont laissé la marque d'un homme volontaire, passionné de l'amour de Dieu et de ses frères. Il ajoute cette belle parole, « Il est toujours vivant dans ses œuvres. » C'est vrai qu'il est toujours vivant dans ses œuvres. Et le Père Ménard a été inhumé au cimetière de la paroisse Saint-Joseph à Rivière-des-Prairies. Disons-nous bien que nous avons en lui un intercesseur auprès de Dieu. Il y a des personnes qui disent avoir été d'ailleurs favorisées par son intercession. Le Père Eusèbe Ménard est le père spirituel de cette grande famille religieuse, une famille de vie apostolique composée de prêtres, je le répète, et de frères, de sœurs, de laïcs aussi engagés. Ils sont engagés à vivre une union intime avec le Christ et avec tous les membres de son corps mystique qui est l'Église. C'est dans la doctrine de cette œuvre. Cette famille d'apôtres est sous le patronage de la Vierge Marie, reine des apôtres et mère de l'Église. Et évidemment aussi sous le patronage des saints apôtres. Jean-Paul II disait « Dans la vigne du Seigneur, il n'y a pas de place pour les paresseux. Si grand est le travail pour tous. » J'aime bien cette parole du pape. « Dans la vigne du Seigneur, c'est un langage imagé, évidemment. « Dans la vigne du Seigneur, il n'y a pas de place pour les paresseux. Si grand est le travail pour tous, pour aller cueillir les meilleures grappes. » La diversité des situations, ajoute le pape, La diversité des problèmes est très grande dans le monde d'aujourd'hui. Pensons aux nombreuses violations contre la personne humaine. Malgré tout, l'humanité peut et doit espérer. L'Évangile vivant en personne, Jésus lui-même, est la bonne nouvelle. Que c'est beau ce que le pape dit. Les gens qui disent que je peux pas lire le pape, ça m'ennuie. Bon, j'entends ça à la télévision, des fois même de la bouche de certains prêtres. Je trouve ça inconcevable. Ils ont pas lu cette parole. L'Évangile vivant en personne, Jésus lui-même, est la bonne nouvelle qui apporte la joie que l'Église témoigne et annonce chaque jour à tous les hommes. Dites-vous bien que quand vous entendez l'Évangile, c'est le Christ lui-même vivant qui sort de la bouche du prêtre, qui traverse l'Église et rentre dans votre oreille et tombe dans votre cœur. C'est Jésus lui-même, vivant. Il est parole, il est bonne nouvelle, c'est lui la bonne nouvelle. Nous ne croyons pas en des livres, nous croyons en quelqu'un vivant. C'est ça être chrétien. Des gens qui disent « Je suis catholique, je crois dans la Bible. » C'est vrai, dans un sens. Mais la raison profonde pour laquelle nous sommes chrétiens, c'est que nous croyons au Christ vivant qui nous habite, qui nous anime, qui fait que nous sommes ce que nous sommes et ce que nous essayons d'être un peu. Jean-Paul II ajoute, et cette proclamation de la bonne nouvelle et ce témoignage, les fidèles laïcs ont une mission originale et irremplaçable à remplir par leur action dans l'Église du Christ. Celle-ci est présente dans les secteurs les plus variés du monde comme signe, source d'espérance et d'amour. Mais c'est ce que font les missionnaires des saints apôtres avec tous ces laïcs qui les entourent. Ils ont chaque année un immense souper pour favoriser leurs œuvres et les aider financièrement. Et aussi pour stimuler l'affection réciproque, pour qu'ils resserrent la main des prêtres et des frères et des sœurs des saints apôtres. Et les laïcs se retrouvent et fraternisent. Il y a là un élan qui s'établit durant cette soirée. Je les remercie d'ailleurs de m'avoir déjà invité à être leur conférencier invité. C'était un grand honneur qu'on m'a fait. Je tiens à les remercier, ces laïcs si dévoués comme M. D'Istasio et M. André Franche, qui sont de véritables apôtres, courageux, modernes. Ce sont des hommes d'aujourd'hui. Ce ne sont pas des gens qui longent les murs. Dans le monde d'aujourd'hui, un grand besoin de la parole de Dieu, qui est lumière, vie et chemin de vérité. Et l'œuvre des saints apôtres, eh bien, elle offre la possibilité de pouvoir y consacrer toute notre vie, si on veut. Ils prennent les vocations tardives. L'une des belles vocations qu'ils ont eues il n'y a pas si longtemps, c'est quelqu'un d'exceptionnel, que j'avais connu en Europe. Il était représentant d'une grande maison d'édition, c'est Christian Rodembourg. Et ses parents et le père Yves Bégin, qui était supérieur général, qu'on peut entendre sur nos ondes vendredi, m'avaient invité à l'ordination presbytérale de Christian Rodembourg, membre de la Société des Saints Apôtres, parti d'Europe pour venir ici. Ça avait eu lieu le 5 août dernier, à 15h, à la chapelle des Sœurs de la Providence, en quartier pauvre, où Christian Rodembourg, le père Rodembourg, travaille. Il travaille parmi les jeunes. Il est déjà passé, d'ailleurs, à Radio Ville-Marie ici pour parler de tout ça. Le Seigneur appelle à toute heure et jamais il n'est trop tard pour répondre à son appel. Hein? Que ce soit comme prêtre, comme religieux, comme diacre, comme catéchiste, comme laïc compromis, comme animateur de toute la communauté chrétienne de son milieu. Dieu seul est le fondement de toutes les valeurs de la vie de l'homme. Dieu seul. Et c'est ce qu'il met en pratique. Ceci termine cette émission sur le père Eusèbe Ménard, franciscain, fondateur de l'œuvre des saints apôtres, cette œuvre immense auquel on doit bien 1000 prêtres facilement, sinon davantage, sans compter tout le reste, et sans compter ces brochures magnifiques que je vous conseille de vous procurer chez les Pères des Saints Apôtres ou à l'œuvre des Saints Apôtres. La fondation des Saints Apôtres est située au 65 rue de Castelnau, juste à côté du Mestro de Castelnau, au deuxième étage, 65 rue de Castelnau. Fondation Père Eusèbe Ménard.